Gravel. Dans le retour.
En fait, ce que vous faites à la radio, ça j'aimerais bien, je crois.
C'est le retour de Boulevard 102.1.
Boulevard 102.1.
17h22. Des scénarios de médailles, c'est le pire qui s'est produit finalement, Véro, parce que il restait deux couples, ouais. Il y avait une place de médaille assurée pour nos patineurs et finalement, ce sera le bronze.
C'est les Olympiques ont le sens du spectacle, fait qu'en danse aujourd'hui, en danse sur glace, on avait pris les notes de danse rythmique, puis ceux qui avaient eu les notes les plus fortes passaient en dernier. Fait que le couple canadien Paul Poirier puis Piper Gillis doivent se contenter d'une médaille de bronze, mais je dis se contenter.
La quatrième pour le Canada?
C'est la troisième pour le Canada, quatrième médaille en tout parce qu'on a aussi une médaille d'argent en courte piste relais mixte. Fait qu'ils ont été dépassés par les États-Unis avec la médaille d'argent et par la France qui a un couple qui est formé du français Guillaume Cizeron et de la Québécoise Laurence Fournier-Baudry.
Ah ben oui, hein?
Ouais.
Hey, y a beaucoup de Québécois qui compétitionnent pour beaucoup de pays, puis ça se peut-tu qu'on étire l'élastique un petit peu de
Mais
façon générale?
Côté, Denis, si t'as une possibilité parce que t'as double citoyenneté, si t'es pas capable de te classer dans ton équipe parce que tous les autres sont trop forts dans ton pays...
Oui, mais là, on est rendu vraiment avec des gens qui représentent des pays dans lesquels ils ont jamais mis les pieds de leur vie. Là.
Ben oui, mais ils sont pas de la compétition pour ça. Tu sais, mettons, l'Italie d'ailleurs, c'est rendu combien l'Italie contre la Suède au hockey? Bon, c'est 3-2 maintenant pour la Suède, mais c'était 2-2. T'as un Québécois qui représente l'Italie parce que son grand-père est italien, fait qu'il avait pu demander son passeport. Mais il n'a même jamais joué dans la Ligue nationale ici, fait qu'il n'aurait pas fait l'équipe canadienne. Fait que lui, il aspirait à un rêve olympique, fait qu'il l'a fait.
Bon, mais moi aussi, j'ai le droit d'avoir un rêve olympique. Je vais représenter la Jamaïque en ski de fond.
Et à l'inverse, j'ai l'impression, Denis, j'ai l'impression que si on fouille un peu... Il y a peut-être des membres de l'équipe canadienne qui sont membres de l'équipe canadienne avec un élastique un peu étiré.
Oui, oui, mais moi, ça va des deux bords. T'as-tu compris ma logique de l'extrême centre? Je le dénonce des deux côtés. Oh! Oui, oui, absolument.
T'es conséquent.
Pas mieux d'un bord que de l'autre. Hey, beaucoup de circulation, Audrey, alors que la visibilité est quand même relativement réduite au moment où on se parle.
Et poche. Si vous êtes sur Laurentienne, direction nord en ce moment, l'accès par le boulevard Louis XIV est partiellement entravé. Il y a un accrochage. Il faut savoir que les policiers sont déjà sur place. Le remorquage est en cours. Ça crée quand même pas mal de ralentissements. Le Laurentienne Nord, ça part, je vous dirais, de Charest jusqu'à peu près Jean Talon pour ce qui est du ralentissement. Henri IV Sud, ça se passe de Versant... Non, c'est pas vrai. Ça se passe de chemin Sainte-Foy au pont. Même chose pour Duplessis Sud. Si vous êtes sur la capitale direction Est, c'est entre Henri IV et Laurentienne en ce moment. Toujours assez difficile. Robert Bourassa, direction Nord entre Charest et la capitale, au ralenti aussi. Henri IV Nord, ralentissement inhabituel à la hauteur de la capitale. Il y a aussi un problème si vous êtes, mettons, sur la 40 direction ouest. Il y a un accident, semble y avoir un accident en ce moment, dans le coin de la 138. Fait qu'à peu près, dans le coin de Saint-Augustin, là, dans le coin de la 138, au croisement, carrément, là, vous avez un accident qui fait en sorte qu'il y a un ralentissement inhabituel dans ce coin-là aussi. Pour ce qui est de la Rive-Sud, c'est pas mal fini. Là. Encore quelques petits problèmes à la hauteur de chemin des îles, ça vient ouest, mais c'est pas mal tout. Évidemment, il y a autre chose, 88-971-102, texto.
On l'a invité à quelques reprises au fil des mois, parce que sur les questions de tourisme, il est toujours intéressant. Puis, il y a eu un texte qui a été publié dans Le Devoir, il y a pas longtemps. Des comités de citoyens, entre autres, qui s'inquiétaient de la Disneyisation du Vieux-Québec, qui, par les temps qui courent, pète des scores au niveau touristique.
Oui, parce qu'on on s'est rendu compte qu'il ne reste plus d'épicerie. La dernière pharmacie qui est sur le secteur de la rue Saint-Jean ferme ses portes. Fait que tu n'as plus de commerce de proximité ou de moins en moins de commerce de proximité, mais tu as des boutiques puis des restaurants pour plaire un peu plus aux touristes. Puis pourtant, la Ville de Québec essaie d'amener de plus en plus de citoyens à y vivre, puisque quand tu vas visiter une ville, t'as pas le goût de visiter un parc d'attractions. Tu veux visiter une ville avec ses citoyens puis de la vraie vie.
Doctorant en géographie et spécialiste du tourisme, Mathieu Saint-Pierre est en studio avec nous autres. Salut Mathieu.
Salut, ça va bien?
Welcome back.
Ouais, merci, merci.
Ça fait longtemps qu'on s'est pas jasé. La Disneyisation, en partant, c'est quoi?
Bien, en fait, c'est quand qu'un lieu touristique qui se transforme ou qui se simplifie, va simplifier leur culture, leur histoire ou bien, tout ce qui vient avec pour la commercialiser, dans le fond, pour faire en sorte d'attirer le plus de personnes possible vers le lieu touristique au détriment de plusieurs autres facteurs qui pourraient être plus authentiques, par exemple, de la destination. C'est un peu plus dans une logique capitalistique là, pour attirer plus de monde sans prendre en compte le reste, sans prendre en compte la culture.
C'est Disney a le don. Moi, j'ai été captivé les deux fois que je suis allé parce que tu passes des journées là, puis tu le réalises pas. Puis je pense que la façon de Disney, d'avoir créé la Disneyisation, il y a comme des principes de base. Là.
Oui, ben vous, pour vrai, vous avez nommé quand même déjà deux bons principes, mais c'est un chercheur, un sociologue qui s'appelle Alan Breeman au début des années 2000-2004. Je pense qu'il a sorti un livre qui a étudié ça.
OK.
Puis lui, il a regardé qu'est-ce qui fait en sorte que les gens restent justement plusieurs jours dans les parcs d'attractions puis qui sont immergés. L'immersion, c'est ce qui était le plus important, ce qu'il a trouvé. Les sites, les parcs thématiques, à cause, il n'y a pas juste Disneyland, là, il y en a plusieurs autres, bien, eux, ils misent sur l'immersion.
Mm-hmm.
C'est 100% ça. Puis ça, quand tu es immergé, ben, tu perds tes repères de temps.
Ah, mais tu as l'impression d'être carrément ailleurs. Puis tu parles d'autres parcs Disney. Universal, là, son parc de Harry Potter. Ouais. Tu as vraiment l'impression que tu t'en vas visiter l'école, le village. Ouais. Tu as l'impression que tout a changé. Le temps, la température, le continent, c'est fou l'effet que ça peut faire.
Tu es dans une file de 2 heures pour une attraction.
Ça te dérange quasiment pas.
La musique, le décor, les écrans des fois vont te donner l'impression que tu es déjà dans le manège et que tu n'en es pas sorti. T'sais.
Effectivement. Il y a aussi Star Wars dans Disneyland.
Qui est franchement épatant dans ce cas-là. Là.
C'est les deux exemples assez typiques d'immersion qui a été faite. C'est ça, il y a 4 principes. Vous en avez déjà nommé quelques-uns qu'on peut parler de la consommation hybride, c'est-à-dire que tu as tout à l'endroit pour survivre. Tu peux manger, tu peux aller aux toilettes, tu peux vivre là littéralement plusieurs jours sans en sortir. Quand on parle de Disneyland, ça va, mais quand on parle d'un lieu touristique que tout dans un demi-kilomètre carré, ça peut devenir problématique. Les gens ne vont pas sortir de ce kilomètre carré-là parce qu'ils vont avoir peur d'aller voir plus loin. Après ça, il y a aussi la thématisation. Quand tu vas à Disneyland, tu vas voir des trucs de Disney.
Mm.
Puis c'est parfois de la monothématisation. Il y a plusieurs thèmes. Il y a comme les thèmes, les Disney Princess, tu peux avoir le Star Wars, etc. Fait,
puis ça, chaque pavillon aussi a ses thématiques. Ça, c'est le pavillon des nations. Ça, c'est celui de la nature. Donc, la jungle, puis les personnages qui sont reliés à ça. Tu sais.
Fait que cette thématisation-là. Mais quand tu es sur un site touristique, si tu vas dans la thématisation, bien, ça vient simplifier un peu toute la culture et toute l'histoire. Il y a aussi tout ce qui est la marchandisation en lien avec cette simplification-là. C'est quand on transforme la culture en quelque chose qui est commerciable. Quelque chose qui est facile à visiter.
C'est-tu genre le principe aussi des produits que tu vas vendre? Mettons un orignal en toutou dans une canne de sirop d'érable?
C'est vers là, je m'alignais vers les produits dérivés.
Classiques.
Qui sont, ouais, c'est ça, ils sont classiques. Puis ils sont en lien avec la thématisation. Si on a un thème qui est, par exemple, l'histoire francophone, on va juste vendre des produits dérivés en lien avec ça et non avec le reste de l'histoire.
Sais-tu quand est-ce que ça m'a sauté d'en face, ce principe-là, Mathieu? C'est quand je suis allé à Calgary pour la première fois puis que je suis rentré dans une boutique de souvenirs de Calgary. Puis, OK, il y avait des chapeaux de cow-boy, là, mais le reste, là, tu sais, les chandails « I love Canada » puis toutes ces affaires-là, je me disais... Ben, c'est toute la même cochonnerie qu'il y a dans un kiosque à souvenirs.
Ah, mais il y en a qui ont commencé à se diversifier. Je pense au Vieux-Port de Montréal, qui ne vendent pas juste des affaires qui ont rapport avec la vieille histoire. Maintenant, ils vendent des porte-clés en cône orange.
Oui, c'est oui.
Étonnant, tiens, la nouvelle culture.
On essaie de faire ce qu'on peut.
On se modernise.
Il y a un dernier principe que je voulais aller dessus. C'est aussi le travail émotif ou performatif. Il n'y a pas de bonne traduction, mais c'est toutes les mascottes, par exemple, qu'il y a à Disney. Ils font vivre l'émotion, ils font vivre tout ça. Mais là, c'est rendu que dans les sites touristiques qui sont Disneyisé. Il y a ça aussi, par exemple, quand j'étais en Normandie faire mon doctorat, toutes les femmes qui étaient aux caisses, ils étaient déguisés comme en 1940,
leur
gros maquillage rouge en kaki et tout. Puis ça, ils parlent un peu comme si tu étais dans les années 40 et tout. Fait que ça, ils viennent faire une performance pour donner quelque chose de plus spectaculaire.
Ils font vivre une expérience.
Oui, puis tu sais, en soi, c'est pas nécessairement mal. Mais c'est quand tu mets tout ça ensemble, mais ça crée
quelque chose
d'un
peu artificiel.
Oui, exactement. Ça vient aseptiser, qu'on dit. Mais
est-ce qu'on est rendu là vraiment dans le Vieux-Québec, d'après toi? Il me semble que non.
En fait, il y a plusieurs éléments, mais pour le Vieux-Québec, c'est surtout la monothématisation qui est vraiment importante. Oui, la consommation hybride, quand je dis que tout est dans la même place, il y a ça, mais c'est surtout la thématisation. On est vraiment axé seulement sur l'histoire francophone de la ville, presque seulement sur l'histoire francophone de la ville. Puis tu sais, ça vient vraiment simplifier notre histoire, ça vient complètement changer ce qu'on a vécu. Puis tu sais, on peut penser, déjà architecturalement parlant, le Vieux-Québec, il n'y a pas beaucoup de traces de l'époque francophone, du régime français. Tu sais, on peut penser... la citadelle, t'sais, Mark Carney était à la citadelle, puis on entendait c'est la bataille a eu lieu là. La citadelle, c'était faite pendant le régime anglophone, pendant le régime britannique. On peut penser aux fortifications aussi. On peut penser à la rue d'Auteuil, là, la rue à l'entrée.
Qui... Finalement, les citoyens qui demandent de la musique francophone dans le Vieux-Québec, ils n'ont pas de rapport. Ça prend, de la... ça prend du British qui va jouer partout, c'est ça que je comprends.
Non, 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 vraiment pas. C'est juste qu'il faut quand même mettre aussi le côté, tous les côtés, parce qu'on n'est pas seulement, on n'a pas seulement un héritage francophone, on a un héritage aussi anglo-saxon qui est important.
Puis quand tu parles d'architecture, tu portes un bon point. Je veux dire, on a une architecture. Quasiment tout a brûlé, là. Je veux dire...
Détruit par le siège aussi, oui.
Exact, exact.
T'sais, les églises aussi, là, les églises dans le Vieux-Québec, là, la maison de la littérature, c'est une Temple Wesley, c'est méthodiste. Il y a le Saint-Patrick qui est pour les Irlandais proche de la redoute Dauphine sur McMahon. C'est tous des lieux qui sont britanniques, qu'on oublie. Fait que, non, on vient juste s'axer sur le côté francophone.
Puis Disney, c'est des parcs d'attractions... Personne vit là, à part le staff quand il travaille fort, fort, puis dur, dur, là, puis les gens qui restent dans les hôtels. Dans une ville comme Québec, ça semble être l'espèce de débat perpétuel dans le Vieux-Québec, tu sais, qui ont perdu des épiceries, ouais. qui ont perdu des pharmacies. Ça semble difficile pour les écoles aussi, la circulation en général. Là, on voit qu'il y a une hausse de la criminalité ouais. aussi. C'était en bas, ça commence à monter en haut tranquillement. J'imagine que le fait de transformer ça en parc touristique, ça a beaucoup de répercussions aussi sur la qualité de vie des gens qui vivent dans ces secteurs-là.
Mais la première critique qui est faite, la Disneyisation, c'est ça, c'est la place des résidents. Les résidents ne sont pas pris en compte. Puis je vais raconter l'histoire de Place Royale en lien avec tout ça. Il y a vraiment une grosse histoire avec Place Royale qui est vue aujourd'hui comme le berceau de l'Amérique française en lien avec le dernier bastion français, une petite Europe. Mais il y a 70 ans, ben, c'était vétus, c'était en ruine. Il y avait presque. C'était vraiment pas un lieu touristique.
70 ans, c'est quand même assez récent.
Oh, oui, c'est quand même assez récent. Puis, tu sais, dans les années 50, le berceau de l'Amérique française, c'était l'île d'Orléans.
Ah, ben oui.
C'était vraiment pas vu comme la Place Royale. Puis là, ça a été tout rénové. Ils ont mis. Derrière les briques, là, les belles briques, les beaux toits, mais c'est du béton. Là. C'est pas...
C'est fake.
C'est fake. Effectivement, ouais. C'est du face à disque, ça s'appelle. Puis ils ont tout reconstruit ça pour lui donner comme le côté francophone, le côté qu'on a à l'UNESCO, en fait, le dernier bastion francophone. Puis, tu sais, le culminement de tout ça, ben c'est, si je vous dis Leonardo DiCaprio.
Ben oui.
Catch Me If You Can.
Mm-hmm. Ben oui, dans l'église.
C'est, ben dans l'église, dans Place Royale. Ouais. Puis, tu sais, c'est présenté comme un lieu... en Europe, en France. Fait que c'est un peu l'image qu'on a voulu donner, puis ça l'a donné cette thématisation-là, surtout avec les Fêtes de la Nouvelle-France, qui est un peu le côté performatif qu'on peut dire. Mais ça, c'était fait au détriment des résidents. C'est là le lien que je fais avec tout ça.
Ouais.
Mais il y a des lettres vraiment émotives que j'ai lues. Là. C'est des lettres que clairement, la personne a pleuré pour écrire cette lettre-là, pour dire que pourquoi vous me délocalisez. Ils ont été délocalisés, mettons, dans le coin de Mézeray à peu près, là,
ouais.
Ou les Tourbardiers dans ce lieu-là. Mais ils ont été délocalisés là, puis le monde, il pleurait, puis il faisait des lettres, puis il y a encore des gouttes, tu sais, comme... Puis les résidents n'ont pas été pris en compte, puis c'est encore le cas jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait qu'on n'a plus d'épicerie. T'sais, l'épicerie la plus proche, c'est le métro en Basse-Ville ou le métro sur quartier. C'est vraiment loin quand t'es à côté de Château-Frontenac.
Dans des villes hyper touristiques, Mathieu, comment on fait pour garder une qualité de vie des résidents? Tu sais, moi, je pense à Rome, je pense à Venise. C'est comme les premiers flashs que j'ai de villes qui sont peut-être disneyisées à l'os, là, tu sais, le Colisée de Rome, puis les deux, trois ruines qui restent, puis Venise, la place romantique, puis tout le monde se promène. On a-tu trouvé des façons de moyenner un peu?
Bien, Venise, c'est vraiment un bon exemple parce que la lagune, sans touristes, il n'y a personne.
Uh-huh.
C'est vraiment vide. Il y a Barcelone aussi qui est un bon exemple de Disneyisation. Mais je vais parler de Barcelone parce que c'est là qu'on a vraiment un exemple de mesure qui a été prise contre le surtourisme. Maintenant, tous les voyageurs vont payer vraiment une taxe assez. Ben, ça l'est pour un voyageur, ça l'est pas tant, mais c'est quand même une taxe pour chaque nuit, même pour l'Airbnb, même pour n'importe quel type d'hébergement. Puis avec ça, ils ont construit des logements, ils ont fait des épiceries pour les résidents, des restaurants pour les résidents, parce que ça tente pas quand tu résides dans le Vieux-Québec à aller boire une bière à 15$. Là. C'est pas ça qui tente. Fait que...
Les trappes à touristes, t'as pas le goût d'y aller, toi. T'es pas
non,
un touriste.
C'est ça, exact.
Puis tu le sais.
C'est effectivement. Ça. Fait que c'est ça. Fait que oui, c'est Le viser l'immersion totale, c'est vraiment pas ce qu'on veut parce que ça, c'est au détriment des résidents. Puis c'est les résidents qui font le patrimoine. Mmh. C'est quelque chose vraiment d'important à dire parce que le patrimoine,
c'est pas
fixe.
Parce qu'on cherche souvent cette immersion-là.
Oui.
On va chercher, c'est quoi la vraie vie du monde? Tu vas à New York, tu vas essayer tu voudras pas nécessairement
dans
Times Square. Tu vas aller dans East Village, tu vas aller à Greenwich pour essayer de connaître autre chose que les mascottes qui ont des puces de lit.
Puis tu sais, le patrimoine aujourd'hui, c'est les résidents qui l'ont fait. Là.
Oui.
C'est,
qui ont continué à vivre.
Ça s'appelle du placemaking, là, mais quand tu arrives en quelque part, tu veux avoir ta, ta, ta place à toi, ton quartier. C'est comme ça que les quartiers ethniques sont faits aussi. Là. Le quartier, mettons, chinois, bien, c'est pas... Il n'était pas de même quand les premières ethnies ils sont arrivés dans le quartier. C'est eux qui l'ont construit. Puis c'est aujourd'hui des quartiers qui sont vus comme patrimoniales et qu'on devrait figer. Quand ils ont toujours bougé, ils ont toujours été modifiés.
Fait que si tu enlèves les gens de là, ça perd un peu sa couleur, sa saveur.
Ça arrête d'évoluer aussi.
Mais il faut que tu aies une vision pour penser à ces choses-là. Puis moi, je suis obsédé par ça. Je trouve qu'on manque de vision au Québec de façon générale sur le développement, sur les stratégies, puis ainsi de suite. Puis on souffre peut-être un peu de ce manque de vision-là. On dirait que les objectifs sont loin. On pense aux 4 ans. On pense pas à long terme quand on développe, quand on veut changer certaines choses.
Mais il y avait quand même du positif parce que la fermeture de la pharmacie, ça fait un clou qui va aller contre ce que je vais dire là. Mais il y avait une tentative de ramener des résidents. Il y a entre autres l'îlot Charlevoix qui est en face de l'ancien Ashton.
Oui.
Je sais pas si vous... Il y a comme, c'était vide pendant vraiment plusieurs années. Puis là, ils veulent construire de quoi là? Ils veulent mettre une épicerie dedans. Mm-hmm. Fait que c'est déjà quelque chose qui va attirer des gens. Il va y avoir une interdiction de faire des Airbnb dans les logements qui sont au-dessus. Puis c'est vraiment bien pensé. Puis ça garde...
Il y a plusieurs villes qui s'en vont vers ça, d'empêcher le Airbnb pour que ce qui est des loyers puisse servir à des gens
vont
y vivre,
des résidents
carrément. Il y a certaines villes aussi qui vont empêcher les grandes chaînes de s'établir dans les quartiers pour que ce soit des commerçants locaux qui puissent s'y installer.
Oui, vraiment. Il y a plein de petites tactiques comme ça. Mais c'est dur de se battre contre des grosses industries qui font des centaines de millions par année.
Qui ont des moyens.
C'est là aussi qu'il faut regarder.
Hey Mathieu, merci beaucoup. Ça a été super intéressant.
C'est un plaisir, comme toujours.
Toujours un plaisir de te recevoir. Plaisir partagé. Mathieu Saint-Pierre, doctorant en géographie et spécialiste du tourisme, 17h38.
Gravel. Gravel. Dans le retour.